Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis, premier épisode de la quatrième saison du podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Il y a déjà beaucoup d'actions depuis le début de la saison. On va regarder ce que nos Canadiens ont fait, qui sont nos premiers champions de la saison. On va faire aussi quelques prédictions pour l'année 2023 et on commence déjà à regarder vers les internationaux d'Australie. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok oui.
C'est parti.
Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, quatrième saison qui débute. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado conventionnelles. On est en association également avec Tennis Canada, l'Omnium Banque Nationale. Nous sommes à l'Hôtel Montville. Hugues et moi, Nicolas Richard, viennent nous rejoindre assez régulièrement également. Messieurs, je commence d'abord en prenant de vos nouvelle, Nicolas Richard, comment te portes-tu? As-tu passé un beau temps des fêtes? As-tu pu te reposer un petit peu?
Pas si mal. Beaucoup travaillé pendant le temps des fêtes, là, parce qu'il y a du football, du ski alpin notamment, la saison de tennis qui reprend aussi. Beaucoup d'activités extérieures aussi, malgré l'espèce de température complètement inadéquate là, pour ce qui est du ski notamment. Là, il y a beaucoup neigé, après il a fait chaud, bref, vous le savez, là, vous pouvez... dans la même province que moi, mais bon, ça a été rocambolesque, mais peu reposant comme période des fêtes. J'espère que vous vous êtes reposé un petit peu, Alex. Je sais que tu as pris un petit peu de repos, alors heureux de te revoir de retour sur les sols.
Ben, t'es gentil. Je te souhaite une excellente année 2023, mon gars. Je suis tellement content de travailler avec toi depuis plusieurs années déjà. Et ben, ça me fait plaisir de commencer mon année 2023 avec toi également. Je passe les mêmes souhaits à mon autre collègue, Hugues Léger. Hugues, as-tu pu te reposer un peu? Ton temps des fêtes a ressemblé à quoi?
On s'est lancé dans la marche en montagne. Écoute, on s'est dit, il n'y a pas beaucoup de neige. Les sentiers vont être praticables. Donc, on a profité pour faire le tour des cantons de l'Est. Là, Sutton, Harford, Knowlton. On s'est équipé en chaussures de marche de neige. Et ça a été des belles vacances reposantes. Et comme on pouvait marcher beaucoup chaque jour, bien, on a dépensé quelques calories. Donc, on pouvait continuer de manger à chaque fois et en profiter à fond.
Ouais, mais t'es capable de de la place pour te permettre un peu pendant le temps des fêtes, là. Mon cher Hugues, toi qui t'entraînes à l'année longue, là, comme je le dis toujours, là, c'est pas gênant. Ta forme physique, là, je veux dire, tu peux courir sur un terrain de tennis assez longtemps, pas mal plus longtemps que moi, en tout cas.
En tout cas, bonne année tout le monde. Content de retrouver toute l'équipe qui est autour de nous aujourd'hui. D'ailleurs, la grosse équipe est là pour commencer l'année. Et bonne année à tous les auditeurs aussi.
Ouais, ben. Parlant de ça, on va intégrer dans pas longtemps deux de nos collègues des médias sociaux. Mais avant, je veux dire à tous les gens qui nous écoutent, merci, un gros merci. La revue de l'année a été un des épisodes les plus écoutés dans l'histoire du podcast. Nos chiffres continuent de monter, je suis surpris oui. À chaque fois. Et puis, ça va être une année de transition pour l'émission. Cette année, vous allez voir, il y a des choses qui vont se cristalliser. On en parlait l'année passée. Là, on commence le premier épisode un peu dans le même moule, mais il y a déjà des choses qui vont commencer à changer. Il y a des nouveaux invités, des nouveaux collaborateurs qui vont être là. D'ailleurs, on en a une avec nous aujourd'hui que je vais vous présenter un peu plus tard, mais ça va être une année belle fun. Je pense que ça va être l'année où l'identité du podcast va vraiment se cristalliser. Hugues, est-ce que je me trompe?
Oui, je dirais plus une évolution qu'une transition parce qu'on continue de progresser. Puis moi aussi, je remercie tout le monde. Écoutez, on en a eu des très bons chiffres dans le temps des fêtes. Effectivement, ça a été l'épisode peut-être le plus regardé, je crois, depuis le début du podcast, celui du temps des fêtes, le bilan 2022. On a eu des très bons résultats aussi en Europe. Ça continue. Je sais que ça peut faire un peu sourire comme ça, mais on voit que notre contenu francophone plaît beaucoup, notamment en France. Là, on a atteint la cinquième position des podcasts tennis en France durant la période des fêtes. On est très fiers de ça.
Et on fait toujours bien en Mauritanie également, alors je souligne. J'intègre à la conversation Abraham Santerre et Nicolas Bergeron. Je les intègre parce que, bon, c'est le premier épisode de la saison et, c'est eux qui sont en contact avec le public pour l'essentiel sur nos plateformes sociales, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook. Je sais que beaucoup de monde me parle du fait qu'on publie des résultats à une vitesse assez hallucinante. Ben, les deux grands responsables de ces résultats-là sont Abraham et Nicolas. Abraham, je te souhaite une bonne année 2023. As-tu pu passer un bon temps des fêtes, mon cher ami?
Ben oui, ce fut un super temps des fêtes, là. Retour dans les cantons de l'Est pour moi qui étudie à Jonquière, là. J'ai pris le temps de me reposer en ne travaillant pas beaucoup, en étant vraiment relax, en reprenant les forces pour la session qui commence lundi prochain. On retourne aux études, là, puis le podcast ici qui recommence. Là, 2023 débute sur la bonne note.
Ah, maison, puis je te remercie une fois de plus pour ton excellent travail. Merci pour ta présence également dans le show de la revue de l'année à la fin décembre l'année passée. Nicolas Bergeron, tu as fait peut-être un peu moins de présence que Nico, parce que bon, toi, tu es très occupé aussi avec l'ATM. Tu travailles également au Journal de Québec. Écoute, comment as-tu passé ton temps des fêtes? As-tu pu te reposer?
Oh oui, ça c'est sûr que j'ai pu me reposer. Moi, je pensais, comme Abraham, je viens de Farnham, les cantons de l'Est, puis moi, je pensais arriver ici, jouer au hockey tout le temps dehors pour dire que j'étais assez déçu avec la température, fait que j'ai pris beaucoup de temps de me reposer en écoutant beaucoup de sport, du tennis, du football, du hockey, vraiment améliorer mes connaissances générales dans le sport, mais c'est sûr que en vacances, quand je reviens chez nous, je me repose très souvent pour après commencer les études encore.
Ben, écoute, tu fais bien. En tout cas, messieurs, vous êtes deux beaux talents, jeunes talents du monde des médias. C'est un plaisir pour nous trois de travailler avec vous et de collaborer avec vous au quotidien. Puis je vous dis un gros lâchez pas. Je vais vous ramener un peu plus tard dans l'émission pour nos prédictions. Je veux vous intégrer pour ça. Puis eh ben, en attendant, je vous dis un gros merci, messieurs, puis lâchez pas votre bon travail.
On est une merci. Pépinière à talent, Alex. Je le redis encore, là, Nicolas Richard aussi est passé dans les ligues majeures à la presse après avoir commencé avec nous. Et je pense qu'effectivement, Abraham et Nico Bergeron sont une relève de très haut niveau avec qui on a grand plaisir de travailler.
Ben en fait, Nico, tu l'as déjà dit, là, t'en caches pas, mais moi et Nico, on travaille ensemble depuis déjà un bon petit bout. Il est venu faire un stage avec moi à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a aussi ensuite travaillé à TVA Sport. J'avais eu des bons mots pour lui. Alors, Nico et moi, ça fait déjà un bon temps qu'on travaille, puis on est bien fiers de toi, Nico. C'est ça qu'on veut te dire en début de saison, en début d'année 2023.
Alex et moi, on a même un petit cadenas là, sur les Champs-Élysées, là, sur une clôture au-dessus d'un lac. On a un petit cadenas.
Le pont des arts.
Exact.
Et honnêtement, on en est très fiers.
Après Emily and Paris, c'est Nico et Alex and Paris. c'est pas mal, ça.
Nico, tu es certainement un des toi aussi beaux jeunes talents, mais parlant de talent, je veux ajouter à la conversation une fille qui a beaucoup de talent pour communiquer, qui va bien s'entendre avec Hugues Léger également parce que c'est une fille de marketing dans le sang, une des rising stars, je vais le dire comme ça, puis prends-la Isabelle, du monde des médias présentement, la femme d'hockey qui devient maintenant femme de tennis, parce que tu as collaboré avec nous assez régulièrement. Isabelle, merci de te joindre à nous.
Hey, c'est un grand plaisir. C'est vraiment le fun de pouvoir me joindre à cette belle gang-là. Vous êtes tellement déjà bien installés. C'est un podcast qui est tellement intéressant. Puis, vous le savez, je suis femme de hockey, oui, mais mon sport, c'est le tennis. Moi, c'est au tennis que je joue, en fait. Je fais des interclubs. Je suis amateur, on s'entend. Mais quand même, c'est un sport que je surveille depuis toujours, que j'aime. Donc, de pouvoir me joindre à vous, ça va être une belle année. J'ai très, très, très heureuse et fière de faire ça.
Ben, t'es venue au podcast une fois l'année passée et puis ben écoute, on a vu déjà toute la passion dans tes yeux. Tu vas être là pour nous parler, pourquoi pas de tes résultats à Interclub aussi. Hugues nous en parle également de ses résultats et ça nous fera plaisir de les entendre. Effectivement, comme tu le disais, t'es fan de hockey, tu travailles dans le hockey également, mais t'es une maniaque de tennis également. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu ces deux Montréal, il y avait Billie Jean King à Montréal. Isabelle Etier, elle était là. Elle était là pour voir Billie Jean King, Rebecca
Marino. Aux premières lignes.
Alors, c'est un grand plaisir pour nous. Puis, regarde, bon, puisqu'on y est, là, fais-nous donc ton background de fan de tennis, là, puisqu'on y est. Puis, après ça, on expliquera peut-être un peu plus ton rôle pour ce qui s'en vient à Sur la ligne.
Bien, en fait, le tennis est rentré dans ma vie parce que mon frère ne voulait pas jouer à la balle avec moi. Donc, ma grande-tante m'a acheté une raquette, elle m'a amenée chez la Verdure, elle a dit, là, quand tu vas avoir une raquette de tennis. Sauf que je ne jouais pas au tennis organisé, je faisais balle au mur. C'est comme ça que j'ai développé mon oculo avancé. J'ai joué peut-être en cinquième, sixième année au tennis organisé, des petites compétitions ici et là, mais vraiment pas beaucoup. J'ai été, par exemple, chasseuse de balles pour, à l'époque, les players, là, qu'on appelait les matinées, quand les cigarettes avaient le droit encore de commanditer. Donc, j'ai eu des très belles expériences là. Puis, En 2018, j'ai décidé de me mettre au tennis vraiment sérieusement, prendre des cours, rentrer dans l'interclub. Là, je joue en double, justement. Là, je suis rendue à l'Île des Sœurs et je suis en division 4, là, niveau 4. Je compétitionne d'ailleurs cette semaine, fait que je pourrais vous dire ça la semaine prochaine, comment ça a été, si j'ai été inspirée par les résultats de l'Australian Open cette semaine.
Ton meilleur coup, c'est quoi, Isabelle?
Mon meilleur coup au tennis, mon service est quand même bien parce qu'il est vraiment, tu sais jamais où ce que régulier. Je vais l'envoyer. Ben, il est très régulier, mais j'ai vraiment
ce court,
long, ça fait partie de mes jeux. Je suis une fille de fond de terrain, donc lorsqu'on joue en double, là, d'avoir quelqu'un là, qui est bon en attaque, là, je suis vraiment plus constante, revers, coup droit, là, ça va quand même bien. Mais tu sais, je suis en développement, là, je commence. Là, fait que je suis loin de l'Hélène Fernandez. Là. Des fois, je me prends pour ça, là, mais je suis sûre que si on nous compense, c'est pas pareil.
Non, ben écoute, sinon peut-être que tu serais sur le circuit de la WTA. Hugues, je me retourne vers toi parce que je veux que tu expliques un peu à quoi va ressembler le partenariat, parce que c'est un partenariat également avec Femmes de hockey. Oui, tu vas être collaboratrice, mais c'est vraiment les deux podcasts qui vont travailler main dans la main. Hugues, tu peux peut-être expliquer un peu la nature de ce partenariat-là?
Ouais, tout d'abord, bienvenue dans l'équipe, Isabelle. On est vraiment, vraiment content que tu te joignes à nous. C'est une discussion qui a été entamée avec Tennis Canada vers la fin 2022, avec Valérie Tétrault notamment. Puis on s'est dit, ça ferait tellement du sens qu'Isabelle se joigne à nous. Ce partenariat-là fait du sens pour plein de raisons. Évidemment, Isabelle, avant tout, est une fan de tennis et une joueuse, et on voulait une perspective féminine au sein de l'équipe aussi. C'était important. Donc, Isabelle va traiter de différents sujets autour de l'équité des genres dans le tennis. C'est les problèmes de santé mentale aussi, tout ça qui sont des sujets vraiment importants pour nous. Le lien aussi entre le hockey et le tennis, parce qu'il est très présent. Il y a beaucoup de joueurs de hockey et de joueuses qui sont fans de tennis, qui jouent au tennis. Donc, on va aller piger dans cette table-là aussi. Il y a des lieux communs qui sont intéressants. Isabelle, c'est une personnalité média, tu nous as parlé, Alex, qui est en pleine évolution, en pleine croissance en ce moment. Puis, on trouvait que c'était un mariage parfait. Donc, on est vraiment content là, de commencer cette association-là sur deux plateformes qui sont en progression au Québec aussi. Donc, on est des jeunes podcasts relativement qui ont des relais dans les grands médias aussi ou les médias de masse. Nous, en radio, évidemment, avec BPM Sport, Isabelle avec TVA Sport. Donc, ça faisait plein de sens qu'on travaille ensemble. Puis, je pense que c'est un bon fit au niveau de l'équipe aussi. On va continuer de s'amuser tous les quatre maintenant en ondes.
Isabelle, toi, qu'est-ce que tu y as trouvé de dire, ben parfait, je m'associe à vous parce que, bon, tu es une fille de marketing, tu t'associes pas à n'importe qui, là. Alors, tu nous fais un beau compliment en t'associant avec nous autres. Qu'est-ce qui a été marquant pour toi dans cette décision-là?
Ben, en fait, je pense que le côté, la crédibilité du podcast, bien entendu, le fait aussi qu'on respecte que, tu sais, moi, je suis pas une journaliste, on va se le dire tout de suite, je suis une passionnée, je suis une amateur, je vais donner mon opinion, je vais amener mon côté, tu sais, humain dans tout ça, puis on voulait respecter ça, puis ça c'est important parce qu'on peut pas dénaturer ce qu'on est. Fait que vous allez voir dans mes commentaires, moi je suis pas la grande spécialiste de tennis, j'aime ça comme la plupart des gens, mais c'est pas mon travail premier. Donc, je vais vous amener un peu dans mon univers lorsqu'on va collaborer. Maintenant, c'est important pour moi parce qu'effectivement, quand je rencontre, bon, je suis rendue à 70 balados, le balado Femmes d'hockey, moi, je prends le multisport et je réalise qu'il y a énormément de joueurs de hockey, de personnalités qui jouent au tennis, justement. Et ça fait un lien, tu sais, je pense à P.O. Joseph, entre autres, Raphaël Harvey Pinard, c'est des gens qui aiment beaucoup jouer au hockey, donc de jouer au tennis et au hockey. Donc, ça va être vraiment intéressant de faire les parallèles. Puis, ben moi, ma mission, c'était justement de mettre en valeur les femmes, les valeurs humaines, l'inclusion. Et c'est ce qu'on me demande de faire à travers ce mandat-là. Donc, c'est exactement dans la lignée de ce que je veux faire. Changer les mentalités.
Ben écoute, non seulement tu es bien parti avec ton podcast, je le rappelle, Femmes de hockey, qui est peut-être le podcast qui avance le plus vite dans le monde du sport présentement. Et je tiens à dire, et je le pense sincèrement, Isabelle, parce qu'on se connaît dans d'autres contextes également, tu as une drive incroyable. Ce sera un plaisir pour moi, non seulement de collaborer, mais d'apprendre à tes côtés également, parce que je pense que tu as une bonne tête de médias, tu as une bonne tête de marketing. Ça va faire des méchantes belles discussions avec Hugues Léger également. Et puis, c'est un honneur et un plaisir de te recevoir et de t'accueillir dans notre équipe. Isabelle.
On va avoir du plaisir ensemble.
Isabelle, mais déjà que tu joues en interclub à l'Île-des-Sœurs, je les connais assez bien pour y avoir joué beaucoup. C'est quand même le fun que si rapidement, tu vois, tu commences en 2018 à jouer sérieusement, que tu joignes une des équipes d'interclub à l'Île-des-Sœurs. On sait que l'interclub féminin, c'est un truc sérieux. C'est un truc qui a une longévité. Ça fait plusieurs décennies que c'est une ligue qui tient bien le coup. Donc, c'est quand même le fun là, que tu t'investisses vraiment sur une base régulière avec l'équipe là-bas. Et je dois dire que j'ai vu Thomas Plekanec, je reviens au hockey, souvent à l'Île-des-Sœurs en train de jouer au tennis à l'époque. Là, c'était un grand fan. Donc, on voit déjà là, qu'on est dans une talle commune là, entre le hockey et le tennis.
Vas-y Isabelle, excuse.
Non, mais je voulais juste dire que c'est effectivement, ça va être le fun. Puis c'est vrai, je suis un peu compétitive. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien. Déjà, de jouer, je vais vous le compter là, comment ça va être le retour jeudi. Mais ceux qui font les intercom, vous savez, il y a le terrain 1, 2, 3. Bien, je suis déjà rendu sur le terrain 1. Fait qu'on est rendu là. Ça, on commence l'année de même.
C'est un excellent départ. Et écoute, Isabelle, tu vas venir ici et là intervenir avec nous en direct, mais tu vas également nous préparer des chroniques, des entrevues que tu vas faire avec certains de tes invités qui trippent sur le tennis. Alors, ça va créer beaucoup de contenu des deux côtés. Puis comme je te disais, on est bien content de faire ça. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'actualité, Isabelle, toi, ta passion pour le tennis, ça remonte à loin, et je pense que tu as une anecdote assez intéressante que tu peux nous raconter pour dire à quel point ton intérêt pour le tennis remonte à très loin.
Bien, je l'ai dit d'entrée de jeu que je suis une chasseuse de balles retraitée. Donc, on a eu des nouvelles malheureuses de Martina Navratilova présentement. Bon, on sait qu'elle doit combattre le cancer, deux cancers. Mais moi, j'ai eu un moment privilégié avec cette femme-là lorsque j'étais chasseuse de balles. Vous comprenez, là, j'ai 11 ans à peu près, mon anglais est pas extra. Et je me retrouve sur le court central à être la chasseuse de balles au filet pour elle. Et entre les points, c'est nous qui devons servir. Et là, elle me demande, can I have my glass? Le problème, c'est que moi, j'ai amené de la glace, de ice, et non pas un verre. Elle voulait avoir son verre. Fait qu'il y a eu un petit quiproquo là. Et le lendemain, je refais encore son match, mais là, on joue en double. Et au filet, on était très proches à l'époque et j'ai reçu son service sur le dos. Et là, tu n'as pas le droit de rien dire. Fait que là, je ne sais pas si elle me tenait rigueur de ne pas y avoir amené son verre assez rapidement ou c'était vraiment une erreur. Donc, je fais des blagues, mais sincèrement, ça a été un moment marquant dans ma carrière. Fait que je peux me vanter d'avoir reçu le service de Martina Navratilova dans le dos. Et je vous confirme, c'était assez rapide.
Et pour ceux qui s'en souviennent, c'était toute une serveuse, Martina Navratilova. À l'époque, c'était un peu ce que Serena Williams est devenue plus tard. C'était une joueuse au niveau puissance, au niveau précision, au niveau de sa qualité de service. Qui était numéro un mondial. Là, donc, ça a dû faire mal. Ça a dû pincer un petit peu. Là.
Ben, elle est dans la discussion pour les plus grandes joueuses de l'histoire. Et honnêtement, quelqu'un qui la met numéro un, ça se défend. Ça se défend. Ah, alors, oui. Ça doit être presque un honneur d'avoir reçu une balle dans le dos comme ça. Là.
Oui, mais elle a été, s'excuser, puis elle a été super gentille. Puis c'est la même année, j'ai vu Chris Evert. Puis c'est des femmes, justement, qui étaient très généreuses et présentes. Le seul problème, c'est que je comprenais pas tout ce qu'elle me disait. Mais ça, c'est une autre histoire.
Ouais, tu sais, en plus, avec un accent tchèque-américain, tu sais, enfin. Nico, petit commentaire sur la venue de Isabelle Étier. Je t'ai laissé un peu au dépourvu, là, mais je te lance la balle, mon ami.
C'est très, très cool. On a déjà reçu Isabelle là, dans le passé. La chimie était là, donc c'est une chouette nouvelle. Puis on sait qu'elle est partout aussi. Là, on se voit dans pas mal d'événements aussi lorsque je couvre soit la presse et tu couvres tes activités personnelles. Puis d'avoir une généraliste comme ça aussi, ça ne fera pas tort non plus. Fait que bienvenue dans l'équipe. On est très, 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 très choyés et contents de t'avoir.
Bien, merci, Nico.
Mesdames et messieurs, d'habitude, je dis messieurs, il va falloir que je m'habitue parce que il faudrait changer la façon de le dire. On va faire une courte pause. Et au retour, on rentre dans le vif du sujet parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On va parler de tennis puisque c'est notre mandat. De retour au Radio Podcast sur la ligne, le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale. On va faire un méchant tour de force, mesdames et messieurs, pour essayer de passer à travers tous les sujets d'actualité qu'il y a eu depuis le début de la saison. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à travailler dès le 1er janvier la saison prochaine parce que, mon Dieu, qu'il s'est passé des choses depuis le début de la saison. Écoutons, commençons de façon locale parce que, bon, nos Canadiens sont déjà en action là, depuis un bon moment. On a vu Félix jouer durant le temps des fêtes dans le World Tennis League, là, qui est une ligue hors concours, qui est un peu un showcase. Là, et il y a eu des tournois officiels dès le 1er janvier. Nico, je commence avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a marqué ton attente, qui t'a marqué avant qu'on rentre là, dans la spécificité des résultats?
Mais il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a plusieurs joueurs que vous savez que j'apprécie, qui ont performé. Hugues en avait parlé dans notre groupe chat aussi, notamment les États-Unis avec Jessica Pegula, Taylor Fritz, deux joueurs que j'affectionne particulièrement, notamment Jessica Pegula qui a fait quand même un bond important. Là. Commence l'année 3e mondiale. Elle me fait penser un petit peu à Kontaveit, c'est-à-dire qu'elle grimpe à chaque échelon, gruge des points, ne remporte pas de gros tournois. Voyons voir ce qu'elle va faire en Australie. Elle est parmi les favorites. Il faut la placer là. On n'a pas le choix. Mais j'ai hâte de la voir dans un rôle de 3e mondial dans des moments importants comme l'Open d'Australie. Est-ce qu'elle va faire comme Kontaveit et flancher? Vous le direz, c'est contre Serena Williams. Mais quand même, elle était numéro 2 mondial. Elle aurait dû gagner ce match-là. Mais la tenue de Jessica Pegula d'entrée de jeu en 2023 est intéressante. Et on va sûrement en reparler. Novak Djokovic. Vous le savez, dans le dernier show de la dernière saison, je vous avais dit que si ma vie en dépendait, c'est sur Djokovic que je miserais encore. Ce sera le cas pour 2023. Il prouve mon point en début d'année avec cette victoire contre Sébastien Corda, un autre de mes joueurs favoris que j'apprécie particulièrement. Et bold prediction, les gars, cette année, Corda percera le top 20, peut-être même le top 15. Il est rendu là, c'est un joueur de grand talent. On dirait aussi, Hugues, là, tu pourras en témoigner, toi qui es un petit peu, t'as l'œil comme moi. On dirait plus de masse, plus d'élasticité aussi. Alors, comme un galon est devenu un vrai homme. On savait que c'est un gars d'un gros gabarit. Là. Corda, toute sa famille, ce sont une famille d'athlètes. Là. Mais il a pris un galon intéressant. Puis je suis convaincu qu'on va le revoir assurément dans des quarts de finale de Grand Chelem.
Ben merci Nico, on n'aurait plus besoin de toi pour le restant merci, de l'émission. Tu vas passer à travers tous les sujets. Si on fait tous les sujets à cette vitesse-là, on va rentrer tous les sujets. Hugues, qu'est-ce qui t'a marqué de façon générale avant qu'on tombe de façon spécifique sur les résultats? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention durant le temps des fêtes et ou le début de saison?
Ben premièrement, la saison morte est de moins en moins morte là, parce que la United Cup a commencé avant le 1er janvier. Donc notre bilan de l'année roulait encore, que la nouvelle saison était commencé. Je me rappelle d'une époque où, après la finale de la Coupe Davis, c'était vraiment tranquille jusqu'au Australian. Même les tournois de préparation du côté Nouvelle-Zélande et Australie, on en parlait, mais pas tant que ça. Là, il y a eu de l'activité puis il y a eu des choses vraiment intéressantes qui sont passées. Écoute, je retiens déjà, évidemment, la victoire de Djokovic, toute une victoire après avoir sauvé encore une fois une balle de match durant un tournoi. C'est la 8e fois qu'il se retrouvait dans une finale et qui gagne un tournoi. En sauvant des balles de match. Ça, c'est un point important, encore une fois, quand on voit la qualité du jeu de Djokovic en ce moment. Donc, vraiment, vraiment impressionné par le premier tournoi là, de Novak à Adélaïde. Et aussi impressionné par la tenue de Sébastien Corda. Quelle détente! Il m'a impressionné par son contrôle, sa maîtrise tout le long du tournoi. Évidemment, c'est un joueur à suivre pour cette année. Et les deux autres éléments que je retiendrai avant qu'on parle des Canadiens, c'est que deux joueuses qu'on suit depuis l'année passée, surtout de très près, puis qui n'ont peut-être pas performé à chaque fois autant qu'on pensait qu'elles performeraient, bien, elles ont gagné la semaine passée. Sabalenka et Coco Gauff, toutes deux championnes de leur premier tournoi de la saison. Vraiment impressionnant là, dans ce cas-là. Ça va être deux joueuses à suivre toute la saison. Et Coco Gauff, qui ne jouait pas dans la United Cup, je tiens à le souligner, les Américains gagnent. Donc, sans Coco Gauff, qui gagne de son côté un autre tournoi. Donc, les Américains se portent bien, tant du côté masculin que féminin en ce moment. C'est ce que je retiens de la période du début d'année.
Ben, c'est un bon tour. Isabelle, qu'est-ce qui t'a marqué depuis le début?
Écoutez, moi, je suis un peu d'accord. Je trouve que au niveau tennis, il y a maintenant plus de pause. Moi, c'est ce qui m'a marqué. C'est drôle. Hein? Moi, je vais t'amener du côté humain. Je trouve ça super intéressant. Il y a plein de nouveaux événements. Il y a des choses à surveiller. Mais j'ai juste peur du côté des athlètes qu'il n'y ait pas assez de repos. j'ai envie qu'il y ait une petite pause pour pouvoir reprendre. On le voit au hockey, on le voit dans les différents sports. Habituellement, ils ont le temps de se déposer. Et bon, là, il y a le nouveau World Tennis League aussi qui a eu lieu. C'est le fun pour l'amateur, mais pour le joueur, je trouve qu'on devrait faire attention puis s'assurer qu'il y ait des pauses parce que à un moment donné, ça va être des machines. C'est pas vraiment des machines. Moi, c'est mon point. Je n'irai pas dans la... C'est plus l'aspect humain là-dessus, moi, qui m'interpelle.
Ben, je me suis dit exactement la même chose. Moi, j'ai été vraiment surpris de voir Félix aller jouer là avec la fin de saison qu'il avait eue. Il a bien performé. Cela dit, je pense que les joueurs voient cet événement-là comme un camp d'entraînement. C'est-à-dire là, on a pris une pause. On va aller jouer des matchs un peu plus compétitifs pour se remettre en forme. Mais en même temps, c'est vrai que la pause n'a pas été longue. Et je suis surpris qu'il n'y ait aucun de vous, particulièrement Nico, qui m'a parlé du terrain jaune encore.
Ça, c'est une absurdité sans nom. Ça n'a aucun sens.
Tu ne seras pas surpris de savoir que moi, je l'aimais.
Ah, ben, évidemment. Parce que toi, t'es éclaté. T'es bizarre. Non, mais ça n'a aucun sens. Un terrain, je comprends là, l'idée de un tournoi spécial, un tournoi à part, un tournoi un peu plus déjanté, avec un peu moins de sérieux, puis avec plus de gens. Plus... C'est d'une atrocité sans nom. Hein. À la télévision puis à l'ordinateur, c'est dégueulasse.
Je pense il faut pas trop en parler selon moi, mais je vous rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup d'activités dans la période de repos et qu'il y a quelque chose qui va rattraper les joueurs et joueuses à un moment donné. Comme on dit en anglais, something's gotta give. Et durant la saison, on verra où les joueurs et joueuses lèvent le pied un peu. Est-ce que ce sera la Coupe Davis ou la Billie Jean King Cup? Mais il y a un moment où il y aura des choix à faire parce que la plupart des joueurs peuvent pas aller au-delà de 20, 22 tournois sur une saison et de rester en forme. Et la World Tennis League, disons-le, c'est un stunt marketing. C'était encore une fois des pétrodollars là, après la Coupe du Monde du Qatar. Ces joueurs qui sont allés là, c'était un coup d'argent pour eux. Là. C'était pas un camp d'entraînement. Pour moi, le camp d'entraînement, il commence maintenant avec la United Cup et les deux ou trois tournois préparatifs là, à Adélaïde et Auckland, dont on va parler. Mais j'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir revenir. Mais c'est une participation qui est motivée avant tout par l'argent et par un coup marketing là, du pays hôte.
Messieurs, passons du côté des Canadiens et je vous propose de commencer avec les femmes. Bon, Leilani Fernandez, c'est une performance assez intéressante quand même en ce début de saison-là. Un quart de finale à Auckland. Je tiens à souligner qu'elle a battu Brenta Fruvirtova au premier tour et elle lui a donné une sincère raclée, un 6-1-6-1. Ouais. Et Fruvirtova, c'est une fille, bon, là, c'est la plus jeune des deux, là, c'est celle qui a 15 ans, mais c'est une fille qu'on voit peut-être comme une potentielle future numéro un mondiale. Bien, elle lui a montré que c'est encore une fille d'âge junior et qu'elle est là. C'est une pro. Je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais que c'est une entrée en matière intéressante pour Leilani Fernandez. Hugues, t'en penses quoi?
Ah oui, absolument. Écoutez, ses deux premiers tours, elle perd trois jeux. Donc 6-0, 6-1, 6-1, 6-1. Moi, je la voyais vraiment partie pour la gloire dans ce tournoi-là. Elle est là. Mais visiblement, Isaline Bonaventure a eu un bon parcours aussi. Là. Donc voilà. Donc, mais moi, je pense qu'on peut être content du début de Leila. Je l'ai dit en nom à BPM Sport il y a une semaine. Elle veut faire oublier sa saison 2022 qui a été plus compliquée avec une blessure et tout ça. Donc, elle est partie sur les chapeaux de roue. C'est prometteur pour Leila. Début de saison quand même.
Isabelle, bon départ pour Leila.
Oui, tout à fait. Puis je pense que ça va être bon pour sa confiance, justement. Hugues le disait, elle a été blessée l'année dernière, ce qui fait en sorte qu'elle n'a pas eu autant de tennis qu'on aurait voulu l'avoir joué. Donc, de commencer l'année sur le bon pied comme ça, ça inaugure bien pour l'Australian Open qui débute. Là, bon, les qualifications sont présentement, là, mais elle va commencer la semaine prochaine. Mais je pense que moi, je m'attends à de grandes choses de Leila cette année.
Ouais, moi je trouve ça intéressant. Et Bonaventure, comme je disais, c'est elle qui a aussi battu Rebecca Marino. Nicolas Richard, commentaire rapide sur la performance de Leila.
Faut pas oublier aussi qu'elle a fait la finale en double. Donc c'est beaucoup de tennis pour Leila pour commencer l'année. Je sais pas si c'est trop. Je pense qu'elle est assez apte pour décider puis comprendre elle-même ce que son corps a besoin ou imposer ses propres limites. Mais je suis content de voir qu'elle joue beaucoup de tennis, qu'elle gagne des matchs. Tant mieux pour l'Open d'Australie, il faut arriver préparé. C'est pour ça qu'on se rappelle, l'an passé, Nadal avait commencé plus tôt qu'on le pensait, puis ça a payé. Donc, si Leila est en jambes, ça peut être dangereux pour l'Australie.
Messieurs, Rebecca Marino, on vient d'en parler, elle a perdu également contre Bonaventure. Elle a quand même fait le deuxième tour, c'est un premier match. Quoi penser de cette performance-là, Nico?
C'est encourageant parce qu'on sait que Rebecca se prépare aussi pour entrer dans le tableau principal de l'Open d'Australie, vu qu'elle est dans le top 100. Bon, elle est apte, elle est automatiquement qualifiée. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Rebecca, on sait à quel point la saison 2022 avait été spectaculaire et fantastique pour la Canadienne. Tout est permis dans un tournoi du Grand Chelem. C'est sûr que arriver peut-être avec un peu plus de rythme aurait été favorable, mais en même temps, Rebecca, il ne faut jamais la prendre pour battue. Donc, hâte de voir ce qui va arriver dans quelques semaines.
Ouais, tu parles de rythme parce qu'elle a perdu également au premier tour à Hobart. Et là, ben, elle s'en va jouer l'Australia Open avec que quelques matchs sous sa ceinture. Isabelle, Rebecca Marino, tu t'attends à quoi cette année de la grande Canadienne?
Eh bien, je pense qu'elle peut nous surprendre, effectivement. Je pense qu'elle est en jambes. Je pense qu'elle a, bon, un début d'année, peut-être pas aussi comme elle aurait voulu commencer l'année, mais tu sais, c'est une fille qui travaille fort, qui est toujours là. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, d'ailleurs, à C2 Montréal, et tu vois que c'est une femme qui a vraiment toute sa tête, qui peut faire de grandes choses. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va aller cette année pour elle.
Ouais, c'est intéressant à voir. Bon, messieurs, passons rapidement à Bianca Andreescu. Je pense que c'est intéressant son début, Nico, parce qu'elle a battu une de tes joueuses préférées. Oh, Hugues, tu sembles plus en demi-teinte.
Non. Okay. Moi, j'ai été impressionné. Écoutez, c'était le match typique pour un jeune qui commence le tennis pour expliquer que ce sport-là, tant que le dernier point n'est pas gagné, c'est pas terminé. Elle perd le premier set 6-0. Elle perdait 5-2 dans le deuxième. Écoute, c'était fini, là. 6-0, 5-2. Elle remonte ce match-là, elle le gagne en 3-7 contre Muguruza, qui est quand même pas la dernière venue. J'ai été vraiment impressionné par Bianca. Je pense que malgré sa défaite au tour suivant, c'est un bon début de saison pour Bianca. Elle démontre encore une fois que c'est une des plus grandes compétitrices du circuit. Elle adore ces moments-là. Donc, chapeau Bianca, j'ai hâte de la voir en Australie.
Hugues, Nico, es-tu dans le même ordre d'idée? Départ intéressant pour Bianca Andreescu en dépit d'une défaite au deuxième tour.
Oui, tout à fait. Cependant, j'ajouterais que son deuxième match contre Kudermetova était jouable aussi. Oui, c'est un 6-4, 6-0, mais elle aurait très bien pu mieux s'en sortir. Elle est en jambes, on l'a vu avec son retour contre Muguruza. Par ailleurs, la question que je me pose d'entrée de jeu de cette saison, c'est est-ce que...
Elle va être en santé?
Non, dans la mesure où plus du côté de Muguruza, est-ce que la fenêtre se referme pour elle pour un autre grand chelem? Parce qu'il y a un an à peine, elle était encore le top 10, top 15, top 20. On la mettait, nous, souvent en quart de finale dans nos poules de grand chelem. Là, elle sort du top 50. Elle est 58e. Ça fait quelques mois que son jeu est coussi coussa, c'est en dentis, très peu de résultats probants. Pour cette grande joueuse de tennis qu'on aime, je pense, tous les quatre voir jouer, est-ce que la porte se referme pour un grand chelem à voir de la manière dont elle a répondu contre Bianca? Je pense que oui. Je refuse d'y croire, mais c'est inquiétant, je trouve, pour l'Espagne.
Ben, c'est ce que tu soulèves comme point, ça a beaucoup de sens, mais je pense que c'est quand même une joueuse qui reste très difficile à battre. Toi, Isabelle, tu vois ça comment? Moi, j'ai l'impression que tout ce qu'on peut souhaiter pour Bianca, c'est qu'elle joue une saison en santé. Si c'est déjà ça, ça sera déjà gagnant. Je sais pas si c'est dans la même lignée que moi là-dessus.
Ben, tu sais, on sait que Bianca, dans le milieu du hockey, on parle de mental toughness, là, tu sais, la dureté du mental. Bianca, c'est ce qu'elle a. Elle a cette capacité de rebondir. On l'a vu, tu sais, depuis qu'on l'a connu dans le fond sur la scène internationale, puis que monsieur, madame, tout le monde l'a découvert avec ses victoires. Tu sais, mais je me rappelle Indian Wells, comment c'était fulgurant. Et donc, oui, si la santé physique, elle est là, elle peut toujours rebondir, puis le match n'est jamais terminé avec Bianca. Donc, cette année, je m'attends à de grandes choses. Tu sais, on a la chance d'avoir énormément de bonnes joueuses canadiennes sur le circuit, puis il y a tellement de compétitions. C'est rien de gagné, hein. Nicole a dit, tu sais, que tu sois 10e, 20e, 50e, c'est très proche entre les filles. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va nous sortir au Australian Open cette année.
Oui, bien, ça va être intéressant. Et comme je dis, si elle peut déjà être en santé, ce sera déjà une grande victoire dans le cas de Bianca Andreescu. Dans le cas de Eugénie, messieurs, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Je sais pas trop quoi penser de ce début-là, Nico. Une victoire et puis ben elle joue pas par la suite son deuxième match. Tu penses quoi de Eugénie Bouchard? Inquiétant?
Ben oui, je me suis comme fait mentalement un calendrier d'évaluation d'Eugénie. C'est-à-dire que d'ici à Roland-Garros, faut juste qu'elle joue. Elle joue, qu'elle perde, qu'elle gagne, faut qu'elle joue. Entre Roland-Garros et Wimbledon, faut qu'elle commence à engranger des victoires. De plus en plus, des premiers tours, des deuxièmes tours, des qualifs. Et après Wimbledon, pour ce qui est la saison sur dur, donc l'Omnium Banque National, le US Open, là, je vais peut-être être plus critique à son égard parce qu'elle va avoir un an ou quelques mois du moins d'entamer et de match derrière la cravate. Présentement, elle doit jouer. C'est une saison ardue, complexe en 2022. 2023 arrive. Elle semble en forme. Elle semble prendre plaisir à jouer au tennis. Je veux juste qu'elle joue le plus possible.
Ouais, ben, je pense qu'on peut se souhaiter ça, Hugues, tu veux ajouter?
Ouais, ben, je reviens sur le bilan de fin de saison de Sylvain Bruno, là, du côté des filles. Bon, on a trois filles dans le top 100 en ce moment. Je pense qu'on s'attend à ce que Bianca et Leila remontent un peu, sûrement avec Rebecca aussi. Donc, il y a du progrès qui est attendu du côté féminin. Autant on était extrêmement contents du côté masculin. On a vu du côté féminin que c'était un peu en demi-teinte. On pensait aller plus loin au niveau de la Billie Jean King Cup. On était en phase finale. On n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc, il y a des attentes sur ce côté-là. Et je pense que nos trois joueuses qu'on vient de nommer, Leila, Bianca et Rebecca, vont progresser encore au classement cette année. Pour Eugénie, je dirais que c'est l'année de la dernière chance un peu. Là. Elle a bien récupéré de sa blessure. Elle joue. Elle a l'air d'avoir envie de jouer. Tu as raison, Nico. Elle a une bonne attitude. On dirait qu'elle a du plaisir à jouer. Mais on sait déjà qu'elle a perdu son premier tour aux qualifications. Donc, Australian Open plutôt aujourd'hui ou la nuit dernière. Donc, les premières semaines vont être très déterminantes pour voir si la motivation est là et si le niveau est là aussi. Donc, je pense qu'on va avoir une idée très claire là, de l'état de Eugénie pour la suite quand on va revenir là, pour le Sunshine Double. Donc, au mois de mars, avril, on saura comment sa saison se présente.
Et les gars, il faut dire aussi que, c'est ce que j'ai remarqué, à quel point Eugénie compte encore pour les bons du tennis, c'est-à-dire la WTA, l'ITF, l'ATP, juste le tournoi dont on parlait tantôt avec le terrain jaune, dont je ne veux pas
prendre
le nom.
Bien sûr, ils l'ont invité, ben oui.
Elle était non seulement invitée, mais elle jouait avec Swiatek et Félix. Je veux dire, on ne peut pas avoir une plus grande fenêtre, une plus grande scène pour montrer qu'Eugénie est de retour. Donc, de voir aussi que les gens de tennis n'ont pas abandonné sur son cas, c'est rassurant, je trouve, pour elle aussi, pour lui donner confiance, mais nous aussi en tant qu'amateurs de tennis, qui espèrent encore une certaine éclosion de sa part.
Ça reste une poster girl du tennis. Et je le dis avec respect, c'est positif ce que je dis, mais elle est payante pour le tennis, Eugénie. Les gens l'aiment, les gens ont envie de l'avoir joué, ont envie de l'avoir gagné. Donc, c'est sûr que c'est une joueuse là, qui est payante pour le circuit.
Bon, du côté des hommes, messieurs, Isabelle, tu voulais-tu rajouter quelque chose sur Eugénie avant qu'on aille du côté des hommes?
Rapidement, moi, mon seul enjeu, Nicolas, j'aime bien ton calendrier de dire au début, c'est pas si important pour qu'elle ait du plaisir, mais on sait qu'un des enjeux d'Eugénie, c'est justement de rester concentrée sur le tennis. Elle a du talent. Est-ce qu'elle va être capable de garder le rythme, même si elle perd, d'avoir du plaisir de jouer jusqu'au mois de mars, avril, et après ça, d'embarquer justement dans la deuxième saison? Moi, c'est mon seul bémol, mais j'aime beaucoup Eugénie. Moi aussi, j'aime quand, lorsqu'on a Eugénie, elle est Eugénie, on aime ça l'avoir jouer au tennis.
Ça, moi, je suis pas inquiet pour ça, Isabelle, parce qu'il y a pas un entraîneur qui m'a parlé on the record ou off the record d'Eugénie qui m'a pas dit qu'elle tripait pas sur le tennis puis que c'était pas une fille qui travaillait super fort. Fait que moi, je suis pas inquiet de ce côté-là. Maintenant, est-ce que les coups sont encore là? Est-ce que la mise en forme est aussi bonne qu'elle doit être pour jouer à ce niveau-là? Ça, c'est la question dans le cas de Eugénie. Mais c'est une fille avec tellement de talent, t'arrives pas au top 5 mondial si t'as pas du talent. Alors, on peut toujours y croire, je pense, dans le cas d'Eugénie. C'est une fille qui attire encore beaucoup d'attention. Du côté des hommes, messieurs, on va passer un peu plus rapidement parce que, mesdames et messieurs, Isabelle, excuse-moi tellement, on va passer du côté des hommes un peu plus rapidement. Félix Auger-Aliassime, bon, il a bien fait là, au World Tennis League, là, mais je pense que c'est pas super significatif. Il a perdu au premier tour contre Popirine, qui est un gros serveur. Bon, ça s'est joué à peu de choses, ce match-là. Mais est-ce qu'on s'en fait avec une défaite au premier tour, Hugues?
Non, il a perdu contre un Popirine en forme qui a été chercher une coupe de tour après quand même, qui est un joueur qui peut être menaçant aussi. Je pense que Félix effectivement va que son regard est posé sur l'Australian Open là, donc il n'y a pas d'inquiétude sur cette première défaite. Et encore une fois, il y avait beaucoup de tennis durant le mois de décembre. J'étais aussi surpris de le voir jouer dans la World Tennis League, mais aucune inquiétude pour Félix.
Nico?
Félix Auger-Aliassime est 10e mondial, puis avec la saison, là, c'est moi qui dis ça à Alex, là, fait que prends le tape, là. C'est pas grave si Félix perd. Présentement. On s'en reparlera à Melbourne là, dans deux semaines. Mais en début de saison comme ça, c'est pas grave. Il y a tellement roulé. Tantôt, Isabelle parlait du peu de vacances, ou du moins à quel point la saison est courte. Félix, il y en a un qui a une grosse année. C'est lui, surtout en fin de saison. Donc, il peut perdre autant de matchs qu'il veut. Mais quand le premier Grand Chelem arrive, c'est game on.
Ben, puis il a beaucoup de points à défendre. S'il veut conserver son classement, il a vraiment beaucoup de points à défendre dans le premier mois de la saison. Et c'est vraiment plus au mois de mars-avril où il y a des points à aller chercher, là. Alors, Isabelle, t'acquiesçais pendant que Nico parlait. J'imagine que tu es pas mal sur le même feeling. On ne stresse pas trop avec cette défaite-là.
Je suis 100% d'accord avec les deux. En fait, je pense que Félix, effectivement, lorsque l'Australian Open va commencer, c'est là qu'il faut que ça commence. Puis, ben, je pense qu'il y a une période justement au printemps où ce qui est c'est là que ça va être important de gagner, d'aller chercher beaucoup de points pour aller augmenter dans le classement. Je pense que il va. Moi, j'ai fait la prédiction que je le vois vraiment. J'avais mis top 3, mais c'est top 5. J'aimerais beaucoup voir Félix cette année dans le top 5.
C'est définitivement possible s'il défend ses points et qu'il va en chercher au mois de mars. Parce qu'il y a beaucoup de points. Là. Le Sunshine Double, t'en parlais, Hugues Léger, il n'a pas super bien performé l'année passée. En tout cas, pas à la hauteur des attentes. S'il peut défendre ses points et aller chercher des points au mois de mars, avril, la séquence aussi du début de terre battue, il va monter au classement. Là. Et puis, il faut dire aussi que ses plus proches poursuivants aussi doivent défendre leurs points. Ça va être intéressant. Nico, par contre, dans le cas de Shapovalov, moi, j'ai trouvé que c'est un début très intéressant. Perd contre Djokovic assez tard dans le tournoi. Je pense que c'est encourageant avec la saison de haut et de bas qu'il a connue l'année passée.
Mais les gars, le dernier titre de Shapovalov, c'est quoi? C'est la Coupe Davis. Je suis convaincu que cette semaine-là l'aura propulsé. On le voit, oui, ça a été difficile, mais dans le dernier match, quand il fallait se présenter, il l'a fait. Chapeau, ce qu'on remet en question depuis sa défaite contre Djokovic à Wimbledon il y a bientôt deux ans, c'est ce manque d'ardeur, se laisser aller peut-être en fin de match, ce qu'on n'était pas habitué de voir de sa part, parce que c'est un lion, un chapeau, il a le feu dans les yeux. Il l'a retrouvé à la Coupe Davis. Je doutais de savoir à quel point ça allait se continuer, cette vague. Mais visiblement, tu le dis, Alex, bon début de saison. On a revu un petit peu le chapeau des bonnes années de chapeau. Puis c'est vraiment, vraiment très, très intéressant pour la suite des choses.
Et n'oublions pas qu'il a fait une finale à Vienne en fin de saison l'année passée. Il a perdu contre Medvedev dans un match plus connaître. Alors, Hugues, toi aussi, tu trouves que c'est encourageant?
Ben oui. Je dirais que le résultat du match contre Djokovic, c'était 6-4, 6-3 ou 6-3, 6-4, là, ne reflète pas vraiment l'intensité de ce match-là. Chapeau a très, très bien joué. Djokovic l'a reconnu, d'ailleurs. Donc, je pense que Chapeau is back. Là. Après une saison un peu plus compliquée, très bonne saison d'automne, on se souvient, en Asie. Et après la Coupe Davis, beaucoup d'espoir pour Shapovalov en 2023. Ça commence très bien.
Isabelle?
Ben, Chapeau, c'est un joueur d'émotion. Hein? Il est fougueux. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé aussi. Je trouve qu'il joue tout le temps. Tu sais, il avait comme un peu perdu la flamme ou, tu sais, il démoralisait rapidement lorsque ça allait pas tout exactement comme il voulait. Fait que son enjeu cette année, ça va être vraiment de rester focusé puis de faire point par point. Et Chapeau, on aime toujours le voir. Puis la Coupe Davis a été effectivement, selon moi, un beau tremplin pour lui. Donc, j'ai bien hâte de le voir évoluer cette année. Ça va être encore un autre joueur à regarder, là. Intéressant.
Ben, écoute, ça va être moi ce que je trouve que c'est un début plus qu'encourageant avec la saison qu'il a connue. Et on termine avec Vacek Pospisil, vétéran maintenant du circuit qui continue de jouer avec le sourire. On l'a vu jouer avec Novak un peu. Lui, il a perdu au deuxième tour à Adélaïde contre Safiulin, d'ailleurs que Shapovalov a battu. Et à Adélaïde 2, il a également perdu son match contre Sun Wukwon. En qualification. Quoi penser de ça? Isabelle, je commence avec toi. Vacek, à quoi tu t'attends aujourd'hui et que penser cette saison et que penser de cette performance-là?
Ben, écoute, moi, Vacek, ce que je pourrais dire, c'est que c'est un joueur qui est toujours là. Tu ne peux jamais penser qu'il va être vaincu. Tu ne le sais jamais, dépendamment des tournois, même s'il est vieillissant, il reste qu'on dirait qu'il est encore jeune, il a le plaisir de jouer. Fait que moi, je vais vraiment de ce côté-là. Puis j'aime le voir jouer en double. Moi, j'aimerais ça le voir plus souvent. J'aimerais ça le voir combiner avec nos Canadiens aussi durant des tournois plus importants. Ça serait intéressant. Moi, j'ai envie de voir ça.
Ben, Vacek, pour moi, tu parlais de transition tout à l'heure. Je pense que ça va être une année de transition. On sait qu'il a gagné le Challenger de Drummondville, qui est quand même une belle victoire pour lui, avant d'être un joueur important de l'équipe de Coupe Davis, championne du monde. J'aime toujours le répéter. Canada est champion du monde au tennis, là, je tiens à le ressouligner. Donc, pour Vachek, c'est bon, il prépare son après-carrière. On sait qu'il y a des intérêts en affaires aussi. Donc, on verra ce qui va se passer cette année, mais il va devenir tranquillement un mentor pour la relève. Il y a Alexis Gallarno, Gabriel Diallo. Donc, pour Vachek, ça va être une année où je pense qu'il va se faire plaisir et il va jouer là où il pourra avoir du plaisir et peut-être performer. Mais c'est plus des objectifs là, de top 100 pour un Vachek maintenant.
Nico, en quelques mots.
Ouais, je suis. Ben, tout ce que Vachek va faire pour la suite des choses sera un bonus pour moi. Parce que pour être bien honnête, on s'en était parlé pendant la semaine de l'Omnium. Lorsqu'il avait perdu, il avait l'air vraiment à terre. Puis je pensais vraiment que c'était la fin pour Vachek. Mais revient cet automne, victoire à Drummondville. Dans les Challengers, ça va bien. Donc tout ce qu'il fera pour, la reste, pour le reste de sa carrière, pour moi, c'est du beau bonus pour Vachek.
Ouais, ben tu fais bien de le souligner comme ça. Il a déjà une belle carrière derrière la cravate. On parlera pas de Milos Raonic, on sait pas trop à quoi s'attendre dans son cas. Mais si on va faire une courte pause, au retour, bon, on va parler des champions des derniers tournois et on se garde derrière la cravate quelques prédictions pour l'année 2023. Dernier bloc de l'émission, on est toujours en compagnie de Isabelle Etier, notre nouvelle collaboratrice régulière. C'est encore un immense plaisir de t'accueillir au sein de l'équipe, Isabelle. Passons rapidement, messieurs, sur les champions de cette dernière semaine, ou bien en fait des deux dernières semaines, là, parce que je pense que c'est assez significatif et peut-être que ce sera des champions baromètres ou en tout cas une bonne idée d'à quoi pourra ressembler la saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un de surpris? Novak Djokovic, champion à Adélaïde. Hugues.
92e titre sur le circuit pour Djokovic, 92e. Là, il se rapproche tranquillement là, du peloton de tête des Federer, Jimmy Connors, Nadal qui est en train de rattraper. Mais je répète encore une fois, il sauve des balles de match pour aller remporter des finales de championnat. C'est vraiment impressionnant. Je souligne quand même comment il maîtrise ce qui se passe autour de lui durant un match. Il a fait sortir son frère du match après le premier set qui a perdu contre Cordan en finale. C'était sans appel. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la relation ou ce qui était échangé.
C'est son frère qui a fait sortir?
Oui, c'est Marco, effectivement.
Je pensais que c'était un partisan qui
avait... Non, c'était dans son box. C'était dans son box. Et moi, j'ai aimé ça. C'était pas méchant. Et puis, il s'est excusé après durant les remerciements au moment de la remise de trophée. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Et Djokovic veut tout contrôler tout le temps, on le sait. Et il s'est replacé dans le match après ça. Puis, ben, écoute, bon move, mais chapeau encore pour Djokovic qui commence d'une façon scintillante sa saison 2023.
Isabelle, est-ce que c'est indicatif d'une domination encore une fois de Novak Djokovic cette année?
Ben, tu sais, Novak, il a tellement de talent. C'est sûr que je pense qu'il va avoir encore une grande année. Maintenant, il y a de plus en plus de compétition. On le voit. Ça va dépendre encore là comment il va tenir la route. T'sais. Est-ce qu'il va avoir des blessures? Il est vieillissant aussi, mais il a de l'air quand même assez en forme. Mais je pense que oui, faut s'attendre à ce qu'il remporte encore beaucoup. T'sais, avec un Nadal aussi qui est blessé, qui va être encore là. On ne sait pas combien. En tout cas, moi, je m'attends à ce que Nadal soit ça soit sa dernière année cette année. Fait que j'ai bien hâte de voir. Il va falloir vraiment que les jeunes soient là et présents pour pouvoir vaincre le Joker.
Ça a été aussi une bonne semaine pour les Américains et Américaines. Nico, Coco Gauff a remporté un tournoi. Les Américains ont gagné la United Cup. Qu'as-tu pensé de la United Cup et de cette victoire-là aussi de Coco Gauff, Nico?
J'ai moins adhéré au format. Encore une fois, je trouve qu'on s'y perd un peu. Pour moi, l'ATP Cup, c'était le meilleur format. Pour moi, l'ATP Cup était ce qui se fait de mieux en termes de compétition par équipe.
Parce que tu veux pas de filles qui compétitionnent avec les...
Je trouve que le format était plus simple à comprendre. C'était vraiment un format Coupe du Monde. Tu l'as dit, tant pour les hommes que chez les femmes, ça s'y portait très bien. Là, la United Cup, je trouve que le format était so-so. La mise en marché était moyenne. Tu sais, à part les gens qui suivent le tennis, je pense pas qu'il y ait grand monde qui comprenne ce qui se passait là-bas. Mais pour en revenir à la victoire des Américains, tellement content, on le répète souvent, oui, il y a Tennis Canada, mais la Fédération américaine de tennis fait aussi un travail colossal. Juste à voir le classement, on se rend compte à quel point les Américains et les Américaines viennent de partout. C'est une belle récompense. Oui, nous, on a eu la Coupe Davis. Eux, ils ont eu cette coupe-là qui est un petit peu moins prestigieuse, on le sait. Mais quand même, ça peut donner des ailes à un beau programme comme celui-là.
Oui. Moi, écoute, Alex, trop long, la United Cup, plusieurs sites, on s'y perdait un peu. Cela dit, j'aime beaucoup l'idée d'un
tournoi en mix comme ça. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup ça.
Ça me plaît beaucoup. Je pense que le format, encore une fois, bon, ils essayent un nouveau truc après la TP Cup. Effectivement, je pense que c'était un bon camp d'entraînement pour débuter la saison, mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont suivi parce que c'était trop long, trop éparpillé, malheureusement. Mais belle victoire de l'équipe américaine qu'il mérite. Puis effectivement, je le répète encore, quelle profondeur du côté américain, hommes et femmes en ce moment. On y a une nouvelle génération là, du tennis américain qui émerge finalement, je dirais, là, après une décennie là, plutôt calme.
Isabelle, toi, comme partisan, est-ce que tu t'es senti un peu perdu dans ce format-là ou…
Ben moi, je l'ai pas suivi. Je vous le dis, il y avait trop de choses. Moi, je pensais que c'était une pause de tennis là, tu sais comme bon, il y avait le World Tennis League, il y avait ça. Là, à un moment donné, à ta minute là, moi je pensais que c'était fini avec la David Cup. Fait que je sais pas. Je trouve que il y a tellement d'événements. Il y a la Laver Cup aussi. C'est bien, c'est le fun d'avoir du choix, mais à un moment donné, il faut se ramener puis s'assurer de voir parce que trop c'est comme pas assez. C'est mon opinion.
Ouais, ben c'est ça. Ça se peut. Puis c'est pas un nouveau format comme tel. On le faisait avec la Upman Cup qui était à peu près au même moment au début de la saison il y a quelques années. Mais peut-être qu'il y aura un travail de publicité à faire et de séduction pour amener les gens à écouter cette compétition-là. Et le timing aussi au début. T'sais, pendant le temps des fêtes, là, c'est pas l'idéal non plus. Et eux, comme tu le dis, si c'est une compétition assez longue, il y aura peut-être du travail à faire de ce côté-là. Messieurs, il y aura aussi Sabalenka qui a remporté un tournoi à Adélaïde. Bon, est-ce que c'est une ressurgence, Nico, pour Sabalenka? Est-ce qu'on va la voir dominer le tennis comme on l'attend dominante depuis quelques années? Elle y est pas loin, mais c'est comme s'il manquait toujours la petite coche.
Ouais, j'adore Sabalenka. Vous le savez, une force de la nature ahurissante. On va refaire nos prédictions là, dans quelques minutes, mais pour moi, c'est l'année de Sabalenka. C'est enfin l'année du Grand Chelem après trois demi-finales, plusieurs quarts de finale. Puis c'est toujours... Elle tombe toujours sur la fille qui connaît le gros tournoi. Elle joue toujours son moins bon match lors du match le plus important. Mais Sabalenka, cette année, là, elle est top 5. Elle va grimper. Pourrait possiblement s'approcher, je pense, du top 2, revenir à ses anciennes bases. Mais c'est l'année pour Sabalenka. Un grand chelem en poche pour elle, je pense, lorsqu'on va se reparler à la fin de l'année.
Et la joueuse qu'elle a battue, c'est pas la dernière venue. Noskova, c'est une jeune prodige de 18 ans. Une autre tchèque qui continue d'en mettre plein la vue. Ça va être bien intéressant à suivre, Hugues.
Elle avait battu 11 Jabeur en demi-finale, qui est quand même une cliente là, du top 10. Donc, effectivement, elle est très, très prometteuse. Mais moi aussi, Sabalenka, je pense qu'elle a passé le cap qui lui manquait. C'est pas au niveau de son jeu le problème. Quand son jeu est là et quand sa tête est toute là, elle est vraiment une des meilleures au monde, peut-être la meilleure au monde avec Swiatek en ce moment. Donc, je pense que ça va être une année de breakthrough. Et moi aussi, je m'attends à une victoire dans un des grands chelems de Sabalenka cette année.
Est-il les gars autant à l'oublier? Mais Sabalenka n'a que 24 ans. Elle semble plus vieille. Ça fait longtemps qu'on la connaît. Ça fait longtemps qu'elle est prédestinée à avoir une grande carrière, mais elle a juste 24 ans. Donc, sa marge de progrès est hallucinante. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de la Biélorusse.
Ouais, puis on n'a pas fini d'entendre parler de Noskova non plus. Je te disais, elle a 18 ans, elle est déjà 56e mondiale. Elle a eu 18 ans au mois de novembre dernier. C'est une jeune 18 ans. Alors, Isabelle, si tu as une petite fille à suivre là, dans ton calepin de notes, Linda Noskova, ça en est une certainement. D'ailleurs, elle a joué contre Eugénie Bouchard l'année passée, là, en fin d'année. Je vais réintégrer rapidement Abraham et Nicolas Bergeron à la conversation parce qu'avant de terminer l'émission, je veux une prédiction sur le tennis canadien et une prédiction sur le tennis en général. Tiens, Isabelle, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer avec toi. As-tu une prédiction pour le tennis canadien et une prédiction pour le tennis en général?
Bien, c'est les 50 ans de la WTA cette année. Donc, j'ai envie d'y aller du côté féminin. au niveau canadien, ben, je pense que Leilani Fernandez, ce serait bien qu'elle remporte. J'aimerais ça l'avoir remporté un grand chelem. Je pense qu'elle est capable. Ça serait de toute beauté. C'est-tu plus un vœu qu'une prédiction, mais ça serait cela. Au niveau du tennis en général, ben, tu sais, je l'ai dit un petit peu tantôt, c'est peut-être pas dans le positif, mais j'ai l'impression que c'est la dernière année de Nadal. Donc, ma prédiction, c'est qu'il va tout donner le tout pour le tout. Roland Garros, j'ai hâte de le voir. Je pense que s'il fait un bon tournoi, ça se pourrait que ça soit dans ses derniers pas. C'est ça.
Ça se pourrait très bien qu'il annonce sa retraite à Roland-Garros. Il ne faudrait pas se surprendre de ça. C'est deux excellentes prédictions, Isabelle. Abraham, je me tourne vers toi. Une prédiction du tennis canadien, mon cher ami, et une prédiction tennis en général.
Pour le tennis canadien, moi, je vais y aller avec Gabriel Diallo. On n'en a pas parlé aujourd'hui dans l'émission. Et Gabriel, il se lance au professionnel, là, justement, cette nuit. Il a perdu au premier tour en qualification à l'Open d'Australie, mais c'est juste un début. Il va se lancer sur le circuit Challenger, tout ça. Selon moi, il va gagner des Challengers. C'est dans les têtes d'affiche de ce circuit-là. Et il pourra même avancer en classement pour vraiment entamer 2024 là, sur la bonne note. Et pour le tennis en général, selon moi, au niveau des hommes encore, on aura un nouveau numéro un mondial. Le tennis, là, ça s'est un peu switché dans les dernières années, là. Avant, chez les femmes, tout le top 10 pouvait être numéro un mondial et chez les hommes, il y avait le Big Three. Mais maintenant, c'est complètement le contraire. Là. En approche de l'Open d'Australie, il y a Rafael Nadal, Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas, même Novak Djokovic, qui peuvent reprendre la première place au monde. C'est vraiment une guerre du top 10 et j'inclurais même le top 11 avec Hubert Hurkacz. Donc, on aura un nouveau numéro un mondial puis Tsitsipas, ce serait le fun.
Ben, c'est un joueur qui génère beaucoup de passion, en tout cas autant d'un côté comme de l'autre. Nico, en 25 secondes, s'il te plaît, prédiction.
Lequel?
Vas-y avec celle que tu veux. Tennis canadien
Ouais, canadien, c'est un peu un classique, mais Félix va gagner un grand chelem cette année. Je pense qu'il est rendu là, peut-être. S'il continue avec le même rythme qu'il a gagné l'année passée, ses trois titres consécutifs. Pour moi, c'était le meilleur joueur l'année passée à ce moment-là. S'il continue, s'il reprend ce même rythme-là, je pense qu'il peut gagner. Puis, général, je suis allé du côté des dames. Moi, j'ai une des femmes que j'aime beaucoup, c'est Ann Jabeur. Puis, je pense qu'après avoir perdu deux finales l'année passée en Grand Chelem, je pense qu'elle est prête aussi, elle, à gagner un Grand Chelem.
Très intéressant. Nico Hugues, en 20 secondes, prédiction. Prédiction en 20 secondes.
Retraite de Rafael Nadal avant la fin de l'année. Je suis pas mal sûr qu'il va suivre son ami Roger Federer assez rapidement. On verra très rapidement. Ce qui fait mal, c'est que les journalistes disent ça semble s'intéresser plus à sa retraite qu'à son jeu. Il l'a remarqué dans sa conférence de presse la semaine dernière. Mais bon, je pense qu'on est rendu là. Et moi aussi, je m'attends. Je vais dire une finale de Grand Chelem pour Félix. Je ne sais pas s'il va gagner, mais il va être dans une finale de Grand Chelem cette année, c'est garanti.
Très intéressant. Nicolas Richard, prédiction.
Du côté canadien, les filles vont remporter la Billie Jean King Cup au mois de novembre. Et du côté masculin, Novak Djokovic réalisera ce qui n'a pas été fait depuis 1969, c'est-à-dire remporter les quatre tournois du Grand Chelem au cours de la même saison.
Nico, on va définitivement garder le tape. J'espère. De cette émission-là.
Ouais. Ça, moi, c'est s'il peut rentrer aux États-Unis. Là.
Le contexte est différent cette année. Là. J'ai l'impression que ça va être pas mal moins compliqué que l'année passée. Déjà en Australie, c'est pas mal moins compliqué. Moi, je vais y aller avec Félix Auger-Aliassime va remporter un tournoi Masters 1000. Je vais y aller un peu plus safe que vous. Je pense qu'il est passé très près l'année passée. Et dans le tennis en général, moi aussi, j'avais Rafael Nadal qui va annoncer sa retraite et je pense que ce sera plus tôt que plus tard. Moi, je pense pas qu'il va se rendre jusqu'au US Open. Je vais même dire retraite à Roland-Garros 2023.
Après un titre?
Je ne pense pas qu'il va remporter un titre. En tout cas, le début de saison n'est pas aussi prometteur que celui de la saison passée. Enfin, on verra. Hugues, avant qu'on se quitte rapidement, il y a des petites nouvelles là, en prévision du de l'Australian Open, entre autres là, Alcaraz qui ne sera pas là. Je te laisse avec quelques nouvelles avant qu'on quitte l'émission.
Oui, effectivement, quelques retraits à noter quand même. Le numéro 1 mondial, Alcaraz, qui est blessé, qui ne pourra pas jouer. Venus Williams, qui avait un wildcard, qui finalement ne prendra pas le wildcard, elle se retire. Et Naomi Osaka, qui se retire aussi. Et moi, je repose la question, est-ce qu'on va revoir une Naomi Osaka compétitive sur le circuit en 2023? Vous savez où je me situe là-dessus. J'ai un gros doute sur la suite de la carrière de Naomi Osaka, qui ne sera pas en Australie la semaine prochaine.
Ben écoute, ce sera intéressant à suivre. C'est encore une fois l'athlète la mieux payée. C'est la figure, le visage de la WTA encore malgré tout. Alors ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. On suivra également le tournoi de Hobart et Adélaïde 2. Du côté de l'ATP et de la WTA. On rentre également dans les qualifications de l'Australian Open. On va garder ça de près. La semaine prochaine, on rentre définitivement dans l'Australian Open. Hugues, avant qu'on se quitte.
Ben, on suit Gabriel Diallo qui commence aussi son parcours dans le tableau de qualification plus tard aujourd'hui, là, évidemment, notre chouchou à l'émission. Je pense que Gabriel peut être inclus là-dedans aussi maintenant, mais on va suivre Alexis de très près.
Alexis et Gabriel, certainement. Nicolas Richard, ben, pour la première fois de l'année, je vais te donner l'excellent, le traditionnel mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis Nico, bon tennis Aber et bon tennis Isabelle. Bon tennis tout le monde.